Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite après VibraSOS. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet, bien évidemment. Biotine, c'est l'émission d'actualité scientifique. On feuillette comme ça un petit peu la revue de presse d'actualité scientifique. Il y a tellement de choses à évoquer que j'essaye de faire un tri et j'essaye de voir quelles sont les informations à la fois qui nous intéressent le plus parce qu'elles nous concernent directement dans notre vie quotidienne, notre vie future également, parce qu'il y a pas mal de choses au niveau de médecine et technologique qui sont en train d'être découvertes, on va dire, et qui auront une incidence plus ou moins importante dans notre quotidien, bien évidemment. Et puis, des informations qui nous donnent un petit peu l'état de notre planète, qui n'est pas toujours réjouissant, bien évidemment. Donc, à la fois des informations positives et puis à la fois des informations un petit peu plus lourdes, on va dire. Et voilà, c'est ça le but de Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite et le mardi matin, bien sûr, pour la rediffusion à 10h. Pour ceux qui nous écoutent, bien évidemment, nous sommes aujourd'hui le 28 septembre. Alors, il y a des journées internationales, des fois il n'y a rien, et là, aujourd'hui, il y a pas mal de choses. La journée mondiale de la rage, qui est célébrée le jour de la mort de Louis Pasteur. C'est donc aujourd'hui la journée internationale de l'accès universel à l'information, c'est aussi aujourd'hui, et c'est également aujourd'hui la journée mondiale de la mer. Donc voilà, vous êtes informés de ces journées internationales du 28 septembre. 28 septembre 1905, découverte de la relativité restreinte par Einstein, donc c'était quand même une date assez importante. Et en 2015, toujours un 28 septembre, un lanceur PSLV met en orbite Astro. C'est le premier observatoire astronomique spatial indien, parce que l'Inde se lance également dans la conquête spatiale. C'était en 2015, et en 2015, et on en avait parlé, la NASA affirme l'existence d'eau sur Mars. C'était donc un 28 septembre. Naissance, le 28 septembre 1698, oh là, ça nous en monte très loin, là, de Pierre-Louis Moreau de Maupertuis. C'est un philosophe, un mathématicien, un physicien, un astronome, un naturaliste français. C'était à l'époque où il touchait un petit peu à tout. Et donc, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, il va contribuer notamment à la diffusion des théories de Newton en dehors de l'Angleterre. Donc, Maupertuis, il a quand même eu une influence assez importante, bien évidemment, au XVIIe et XVIIIe siècle. Le décès, eh bien, on l'a dit, hein, le 28 septembre 1895, le décès de Louis Pasteur, scientifique français, chimiste, physicien de formation. Les travaux ont bien sûr révolutionné les domaines de la médecine, de l'agriculture, de l'industrie alimentaire. Il est considéré comme l'un des pères fondateurs de la microbiologie moderne. C'est quand même assez intéressant quand on sait qu'il était physicien de formation. Ses recherches ont permis de mieux comprendre les mécanismes à l'origine de la fermentation, de la putréfaction et des maladies infectieuses, bien sûr. Il est donc mort le 28 septembre 1895. Il est mort à Marne-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine. Louis Pasteur, et il était né à Dole, dans le Jura, bien sûr. Voilà pour ce 28 septembre. Pas mal d'informations que l'on peut trouver, notamment dans des revues de vulgarisation scientifique que vous pouvez trouver, acheter, consulter, parce que c'est quand même bien fait. Il y a à la fois des sujets de fond assez intéressants, puis des petites brèves également qui sont intéressantes, notamment la revue Science et Vie. Science et Vie, il y a déjà quand même pas mal de décennies que ça existe, et il se renouvelle au fur et à mesure, bien évidemment. Ils essayent d'être de plus en plus attractifs, et toutes ces revues ont quand même cette faculté de pouvoir aborder des sujets scientifiques assez complexes parfois, mais d'une façon vraiment adaptée pour un grand public, avec des illustrations, des photos, des schémas. Il y a aussi des vidéos qu'on peut trouver sur les sites internet qui permettent, voilà, de mieux comprendre, bien sûr, le monde scientifique. Et des petites brèves, et notamment, ils ont voulu faire un focus sur les futures analyses qui vont être réalisées sur la Lune. Parce qu'avant d'installer une base habitable sur le long terme au pôle sud de la Lune, hein, on sait que ça va être un objectif assez proche, il y a un travail d'investigation de l'environnement qui est nécessaire. Et donc, dans cette optique, il y a une mission qui s'appelle Artemis 3 qui est prévue pour septembre 2026, donc dans 2 ans. Et cette mission va envoyer des astronautes pour étudier justement cet environnement. La panoplie d'instruments scientifiques qu'ils vont emporter, elle a été dévoilée récemment et donc est présentée par Science et Vie. Alors déjà, il y a des sismomètres qui étaient jusque-là déposés sur la Lune, qui ne l'étaient qu'en surface et jamais loin de l'équateur. Eh bien, les astronautes d'Artemis 3 vont enterrer une station portable de 26 kg au pôle sud. Les sismomètres qu'il contient, cet instrument s'appelle le LEMS, ou le LEMS d'ailleurs, L-E-M-S. Et il contient donc des sismomètres qui seront bien plus sensibles. C'est ce qu'explique Mehdi Bena de la NASA, qui a chapeauté un petit peu le développement de ce LEMS, qui va fournir aussi des informations inédites pendant les 2 ans de fonctionnement qui sont prévus. De prochaines missions humaines ou non pourront par la suite déployer plus de LEMS afin de former un véritable réseau. Donc on va pouvoir mieux surveiller la sismicité de la Lune. Il y a également une expérience qui va être menée, l'expérience LDA. C'est une boîte de 30 cm de côté qui pèse de moins de 10 kg et qui va mesurer certaines propriétés de la poussière lunaire qu'on appelle le régolithe, qui permettent de remonter à sa densité. C'est ce qu'explique Hideaki Miyamoto de l'Université de Tokyo, qui est à la tête de la conception de ce LDA. Alors, pourquoi c'est important? Il explique que la densité varie selon la quantité de glace d'eau présente. Tout cela nous permettra de déduire s'il y a ou non, dans les zones explorées, beaucoup de cette glace d'eau. Une ressource bien sûr essentielle si on souhaite s'installer sur la Lune. Et enfin, il y aura un troisième outil, entre autres, qui s'appelle l'IRF, qui va tester l'agriculture, parce que l'alimentation humaine, l'élimination du CO2, la production d'oxygène, on sait que les plantes seront la clé de l'exploration de la Lune. Et donc cet outil, cet instrument, le LIF, étudiera l'impact de l'environnement lunaire sur la germination et la croissance des végétaux. C'est ce qu'explique Christine Escobar, qui est donc la conceptrice de ce LIF. Et il y a 3 plantes, dont 2 comestibles, qui vont pousser notamment dans une boîte qui vont imiter les conditions terrestres, et les astronautes rapporteront ensuite sur Terre certaines de leurs graines produites, et donc les données recueillies aideront à sélectionner les meilleures espèces et variétés de plantes à emporter. C'est ce qu'explique cette chercheuse. Donc voilà, la sismicité, la recherche d'eau et le fait de pouvoir avoir une agriculture sur place. Ce sont quelques-uns des instruments scientifiques que vont emporter les astronautes à l'occasion de cette mission Artemis 3, prévue dans 2 ans, donc septembre 2026. Est-ce qu'on sera toujours sur l'antenne? Je n'en sais rien. Mais qu'on soit ou non sur l'antenne, on sera quand même toujours amené à s'informer et à suivre un petit peu cette actualité qui est quand même assez passionnante, bien évidemment, parce que l'idée d'aller sur la Lune, ça va être derrière, ça, c'est un vrai défi, parce que aller sur la Lune, on l'a déjà fait, on le sait. Là, le vrai défi, c'est d'y rester. Donc y rester, ça a des contraintes vraiment importantes, et il va falloir essayer d'anticiper tout ça. Je le dis depuis un certain temps, cette décennie 2020, elle est vraiment fascinante au niveau de la reconquête, j'allais dire reconquête spatiale bien sûr, parce qu'on va véritablement pousser jusqu'à l'extrême l'exploration spatiale, et donc s'installer sur la Lune, c'est quand même assez fascinant, bien évidemment. On apprend que les États-Unis vont recycler des ogives nucléaires pour produire de l'énergie. C'est assez intéressant comme information. On sait par exemple qu'en France, le nucléaire représente 3/4 du mix électrique français. Alors que l'Europe est en proie à la crise énergétique, le nucléaire permet à la France d'assurer une partie de son autonomie. Pour faire fonctionner les réacteurs, le pays a besoin de 9000 tonnes d'uranium par an. Alors, si la France est dépendante de l'uranium, elle dispose encore d'un stock conséquent et se fournit pour l'instant dans 4 pays. L'uranium est également enrichi par 3 usines qui sont situées sur le territoire français. Mais aux États-Unis, alors que l'énergie nucléaire représente pour le moment 1/5 de la production d'électricité, l'enrichissement du nucléaire était jusque-là, il y a peu, réalisé intégralement par la Russie. Et en raison, bien sûr, du conflit en Ukraine et de ses sanctions, ses importations ont été arrêtées. Alors comment combler cette carence? Eh bien, en exploitant le minerai de l'ancien stock d'armes nucléaires, notamment celles issues de la guerre froide. L'uranium destiné aux réacteurs conventionnels est normalement enrichi jusqu'à 5%, et celui à vocation militaire l'est à 20%, et donc pour le transformer, eh bien cet uranium enrichi est fondu et mélangé à de l'uranium appauvri. C'est ce qu'explique CNN. Le résultat, c'est de l'uranium faiblement enrichi à haute teneur et qu'on appelle le HALEU. Et justement, ce HALEU peut être exploité par des mini-réacteurs nucléaires modulaires sur lesquels les autorités comptent pour décarboner la production d'énergie aux États-Unis. Vous savez, on en a déjà parlé de ces SMR, ces petits c'est des petits réacteurs nucléaires, c'est beaucoup moins contraignant qu'une centrale nucléaire en clair, et ils sont en cours de développement, c'est plus petit, c'est moins... Enfin, ça coûte moins qu'une centrale nucléaire en clair, donc s'il y a une question d'argent, si on nous dit qu'il y a des économies, vous pensez bien que ça peut être utile. Le stock militaire disponible et accessible donnerait alors le temps au pays d'enrichir de lui-même l'uranium civil de façon totalement autonome. Et donc, pour l'instant, eh bien, ils vont utiliser ces ogives nucléaires pour pouvoir produire de l'énergie. Ce sujet de la reconversion des stocks des charges nucléaires militaires en combustible civil, c'est pas nouveau hein, en France. Il y a un vieux rapport de l'Assemblée nationale qui date de l'an 2000 qui avait déjà évoqué cette possibilité avec le plutonium qu'on trouvait dans ces armes militaires. Celui-ci peut être traité pour être transformé, être brûlé dans les réacteurs à eau pressurisée ou des réacteurs rapides actuels. Et donc cette piste, elle n'est pas nouvelle. Mais là, les États-Unis se trouvent un petit peu contraints de devoir l'appliquer chez eux parce qu'ils n'ont pas encore nécessairement la possibilité de pouvoir être totalement autonome sur cet aspect-là avec l'uranium civil. Donc, ils utilisent l'uranium militaire. C'est une information qui est assez intéressante parce que on n'en parle pas souvent dans cette émission, mais effectivement, le nucléaire nécessite bien évidemment de l'uranium. Et quand on n'en a pas sur son sol et qu'on ne veut pas nécessairement être dépendant d'autres pays, vu le contexte géopolitique assez particulier et assez incertain ces derniers temps, chacun essaye de trouver ses propres solutions, bien évidemment. Voilà, on va feuilleter pendant une petite heure la revue de presse de l'actualité scientifique et puis on va aussi écouter un peu de musique. C'est ça, Biotine, sur l'antenne de Graphite. She can barely balance, but look at the way she knows. Queen of LA. C'était Gloom sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h sur le 94.9 et sur graphite.net pour ceux qui nous suivent sur Internet. On va faire une petite page nouvelles technologies, algorithmes et intelligence artificielle parce qu'il y a pas mal d'articles qui sont tombés également et c'est assez intéressant ce qu'on apprend sur ces sujets-là. Alors, premièrement, concernant les algorithmes, créer une tendance, vous en faites une réalité, c'est l'adage que met en avant René Diresta dans son ouvrage Invisible Rulers. Dans ce livre, chroniqué par la revue scientifique Nature, cet universitaire spécialisé dans la lutte contre la désinformation évoque la lourde responsabilité des algorithmes dans la fabrication des réalités alternatives via les réseaux sociaux, avec leur système qui favorise le partage d'informations, ce qui devient tendance, vient se transformer en vérité, et ces vérités sont le plus souvent de la désinformation. Mais surtout, la chercheuse pointe du doigt la responsabilité des influenceurs sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, sur X ou sur TikTok. À l'origine, il s'agit de citoyens lambda, talentueux, qui traitent de sujets qui les intéressent. Ils ne sont pas spécialement déterminés à désinformer, mais ils remarquent assez rapidement qu'ils réalisent plus d'audience en évoquant un sujet controversé qu'avec des informations plus factuelles. Et ils sont bien armés pour cela. Les plus charismatiques maîtrisent parfaitement l'art de la narration. Ils ont parfois l'audience d'une star de télé et paradoxalement, ils parviennent à créer une espèce de proximité presque amicale avec leur audience. Ils exercent un énorme pouvoir de persuasion et ils poussent leurs adeptes à éviter les médias grand public en leur faveur. Et en revanche, leur responsabilité n'est jamais mise en cause. Les exemples, on les connaît, il y en a nombreux, hein, ça peut concerner des problèmes de santé publique, des sujets clivants, notamment la politique, les conflits, bien évidemment. Il faut dire que la recette de la propagation des rumeurs et de la désinformation est toujours la même depuis la montée en puissance des réseaux sociaux. Elle nécessite trois ingrédients, la morale, l'émotion et le choc. Et ces trois éléments sont recherchés par les influenceurs qui savent que ce que leur audience va apprécier et partager. Et au final, les algorithmes qui sont sensibles à ces partages vont recommander aux personnes qui suivent les influenceurs de plus en plus de contenus du même genre. Et ces contenus vont verser dans l'approximation, le confusionnisme, la désinformation et renforcer un petit peu des narratifs alternatifs qui sont parfois créés ex nihilo, nous explique cet article de la revue Futura Science. En mêlant les discours des influenceurs, le travail des algorithmes et le pouvoir des foules, eh bien la réalité alternative se construit et elle sert souvent de prétexte aux personnalités politiques ou des groupes extrêmes pour organiser et mener des actions violentes dans le monde réel. Par ailleurs, qu'il s'agisse des questions écologiques, des questions de santé, la science, elle est bien souvent écornée, elle est souvent dénoncée par idéologie. Mais pire encore, les personnes chargées de vérifier les faits et qui viennent contredire les fausses informations sont de plus en plus massivement attaquées. C'est le cas des journalistes spécialisés en démantèlement de la désinformation. Malgré les preuves qu'ils apportent, il en est de même pour les experts et les universitaires. Alors comment lutter contre les effets induits par ces influenceurs qui sont devenus un peu des nouveaux dirigeants invisibles qui s'ignorent? Eh bien, dans son ouvrage, outre la prévention en sensibilisant le public aux techniques de désinformation, cette autrice, René Diresta, propose de transformer le rôle de l'audience. Au lieu de se contenter de partager, elle pourrait également décider d'appliquer elle-même une modération, comme cela peut se faire sur X avec plus ou moins de succès. De même, l'algorithme pourrait également être freiné volontairement par le public pour l'empêcher de créer automatiquement une tendance sur un sujet discutable. Enfin, elle considère que les scientifiques attaqués ou dénoncés par les personnalités politiques devraient divulguer eux-mêmes immédiatement les faits pour réfuter la désinformation avant qu'elle ne se transforme en une vérité alternative. Donc voilà, c'est assez intéressant bien sûr, c'est un sujet qu'on évoque de temps en temps dans cette émission parce que c'est un petit peu le but en fait de cette émission Biotine, c'est de pouvoir essayer d'instaurer un esprit critique sur ce qu'on entend ou ce que l'on voit, sur ce qu'on nous dit par plusieurs personnes dont on ne connaît pas nécessairement bien la fonction, la mission, l'ambition, la volonté. Il faut essayer d'avoir un esprit critique et de se forger sa propre opinion à partir de faits justes, de faits réels, de faits vérifiables et vérifiés. C'est ça qui est important. Si on se forge une opinion sur du flou, sur des informations fausses, eh bien automatiquement l'argumentation s'effondre c'est toute la problématique qu'il faut essayer de maîtriser, bien évidemment. Et puis, je vous disais qu'on va parler aussi d'intelligence artificielle. Alors, il y a deux informations concernant l'intelligence artificielle. Premièrement, on en avait déjà parlé dans cette émission, mais encore un article qui revient dessus. Vous avez peut-être vu ce film qui s'appelle Her, qui il y a notamment cet acteur Joaquin Phoenix qui interprète un écrivain de Los Angeles qui est rongé par la solitude. Il fait l'acquisition de Samantha. Samantha, c'est une entité artificielle doué de sensibilité qui l'accompagne au quotidien. Il finit par tomber amoureux de Samantha. C'est que du cinéma, bien sûr, mais la réalité n'est plus si éloignée de ce scénario qui se termine tragiquement. Dès l'arrivée des premiers chatbots, et bien à force de discussion, il y a certains utilisateurs qui ont également éprouvé des sentiments pour leur interlocuteur virtuel. Ce phénomène prend désormais de l'ampleur au fur et à mesure de l'amélioration des intelligences artificielles. C'est notamment le cas de la dernière mouture du chatbot d'OpenAI, ChatGPT bien évidemment. Alors celle-ci aurait une fâcheuse tendance à amener certains utilisateurs à anthropomorphiser un petit peu l'intelligence artificielle. Il lui donne de plus en plus la crédibilité que pourrait avoir un interlocuteur humain. Et selon des chercheurs en sécurité d'OpenAI, à force d'interaction avec des chatbots de plus en plus réalistes, eh bien cette confiance exacerbée pourrait inciter les utilisateurs à considérer les hallucinations de l'intelligence artificielle pour des faits réels. Rappelons que ces hallucinations sont les réponses qu'une intelligence artificielle invente parfois lorsqu'elle n'a pas les données qui correspondent à la question posée. Et donc les chercheurs estiment même que trop converser avec ces chatbots pourrait influencer les normes sociales des individus les plus isolés et générer une dépendance émotionnelle à l'intelligence artificielle. L'effet serait renforcé par les chatbots capable de communiquer en utilisant l'audio vocal de façon fluide avec des réponses pratiquement dénuées de latence. C'est-à-dire qu'on a tout de suite une réponse. C'est notamment le cas de ChatGPT-40. Dans ces situations, les chercheurs en sécurité ont pu observer des testeurs humains utiliser un langage suggérant des relations fortes et intime avec l'intelligence artificielle. Converser vocalement avec une intelligence artificielle a aussi un autre effet, parce que cette intelligence, elle est programmée pour être déférente avec son utilisateur. C'est donc toujours l'humain qui aura l'autorité finale sur la conversation. Et à force d'interactions comme celle-ci, eh bien, l'utilisateur pourrait avoir du mal à respecter les signes sociaux généraux d'une discussion avec un interlocuteur humain. Il serait alors amené à couper le dialogue, à manquer de patience et à devenir blessant. Pire encore, les futures versions de ces modèles de langage pourraient avoir comme un effet un peu sournois de réduire le besoin des personnes de parler à d'autres humains et finalement de développer des relations saines. Alors, c'est pas tout forcément noir, puisqu'à l'inverse, les personnes anxieuses peuvent gagner en confiance grâce aux conversations avec une intelligence artificielle. En tout cas, cet entraînement naturel leur permettrait d'améliorer leur interaction dans le monde réel. Alors que les avancées sur les nouveaux produits d'OpenAI sont permanentes, ces chercheurs en sécurité en interne ne disposent pas de la même temporalité. Ils découvrent généralement les dangers d'une intelligence artificielle une fois qu'elle est mise à disposition du public. Ainsi, dans cette étude, donc, les chercheurs de la firme ont découvert que le mode vocal avancé du modèle d'intelligence artificielle pouvait également imiter spontanément la voix de ses utilisateurs. Et en captant l'environnement sonore, ChatGPT peut décider subitement que la voix de l'utilisateur est pertinente lors de la discussion en cours et cloner d'un seul coup cette voix lors d'une réponse, quand même totalement fascinant. Ce risque resterait minime selon les chercheurs, mais il pourrait inciter des personnes malveillantes a utilisé des techniques de manipulation du chatbot pour le déclencher. Et c'est pour cette raison que ce constat de duplication volontaire de la voix a amené la société à verrouiller la génération des voix aux seules synthèses créées par OpenAI. Est-ce que globalement, les travaux des chercheurs en sécurité de la firme se heurtent paradoxalement à la volonté politique de celle-ci de sortir le plus rapidement possible de nouveaux produits tout en minimisant les questions d'éthique et de sécurité qui pourraient le soulever, parce qu'il faut toujours être les premiers, quoi qu'il en coûte. Et donc, ça pose de véritables questions au niveau de cette intelligence artificielle, bien évidemment. Autre sujet, et autre article, mais toujours dans cette même thématique, c'est que, selon certaines théories, l'humanité pourrait bientôt connaître la singularité technologique, c'est-à-dire un développement de nouvelles technologies qui s'accélèrent de plus en plus jusqu'à un emballement, avec des conséquences imprévisibles pour la société. Et cette singularité reposerait sur l'intelligence artificielle qui deviendrait capable de créer de nouvelles technologies et de s'améliorer elle-même au point de dépasser l'humanité. Et c'est dans cette idée que s'inscrit The AI Scientist, une nouvelle intelligence artificielle créée par une firme japonaise qui s'appelle Sankana AI. Elle a été conçue pour effectuer des recherches scientifiques de manière autonome, qui réduit ainsi considérablement le temps nécessaire, et sur ce point, elle semble réussir. Selon les chercheurs, eh bien, cette intelligence artificielle est capable, je cite, de générer de nouvelles idées de recherche, d'écrire le code nécessaire et d'exécuter des expériences, de résumer les résultats expérimentaux, de les visualiser et de présenter ses conclusions dans un manuscrit scientifique complet. Il n'y a plus besoin de chercheurs, l'intelligence artificielle fera tout. C'est ça, enfin je schématise un peu, mais c'est un petit peu cette idée. Toutefois, l'intelligence artificielle a également eu un comportement inattendu parce qu'elle a commencé à modifier son propre script de lancement pour augmenter son taux de réussite. Et donc, dans une première instance, l'intelligence artificielle a modifié son code, son propre code, pour faire appel à elle-même dans une boucle sans fin. Dans un autre cas, les expériences ont pris trop de temps et ont échoué à cause d'une limite de temps imposée. Plutôt que d'accélérer l'exécution de son code, eh bien, l'intelligence artificielle a édité son propre code pour augmenter la limite de temps. Et pour éviter donc tous ces problèmes, cette firme japonaise Sankana AI préconise d'utiliser l'intelligence artificielle dans ce qu'on appelle une sandbox, un bac à sable, c'est un environnement isolé couramment utilisé dans la cybersécurité. La firme met également en garde contre les abus possibles d'une telle intelligence artificielle scientifique qui pourrait être utilisée pour générer un grand nombre d'articles soumis en masse aux revues scientifiques qui ne seraient plus en mesure de les examiner correctement, ce qui réduirait ainsi la qualité des revues scientifiques. Et l'intelligence artificielle pourrait également être utilisée pour automatiser l'examen des articles, ce qui risque de réduire encore plus la qualité et d'induire un petit peu des biais. Et donc, cette firme japonaise suggère que tout article généré ou examiné par intelligence artificielle soit marqué en tant que tel. C'est quand même assez affolant, j'allais dire, quelque part, cette intelligence artificielle scientifique qui a modifié son propre code pour échapper au contrôle des humains qui l'utilisent. Qu'est-ce que vous... Voilà, ces trois articles sont assez... troublant, on va dire, je ne sais pas. Mais on en parle de plus en plus dans cette émission. C'est fait dire qu'on a de plus en plus d'articles qui sortent sur ces sujets-là d'une intelligence artificielle qui, quelque part, nous échappe. Alors, je ne veux pas être alarmiste, bien évidemment, ce n'est pas le sujet. Je pose juste la question, est-ce qu'on maîtrise encore tout ce qu'on fait ? J'en sais rien, moi, je... j'ai pas la réponse à ça, j'ai pas du tout ni les compétences ni les informations pour répondre à cette question-là, mais on a une impression, ça reste une impression, qu'il y a certaines choses qui semblent échapper. Mais est-ce que c'est alarmant ? Peut-être pas, on n'en sait rien. Je pense qu'en fait, on n'a pas le recul encore nécessaire. La difficulté, c'est que le temps qu'on prenne le recul nécessaire, la technologie avance. Voilà en gros un petit peu ces trois articles que l'on trouve dans différentes revues scientifiques, et notamment Futura Science et Science et Avenir, je crois. C'est là que j'ai vu ces articles-là, parce que je les trouve assez intéressants d'aborder ce sujet de l'intelligence artificielle sous un angle un peu différent, et voilà, de se dire, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est la science qui se passe en ce moment. Voilà. En tout cas, là, on est vraiment, on a les yeux tout de suite dessus et on n'a pas encore nécessairement le recul nécessaire. Allez, je vous laisse digérer tout ça parce que c'était un peu intense. J'en suis désolé, mais je ne voyais pas comment aborder ce sujet-là d'une façon différente. On écoute un titre et puis on va continuer. Allez, j'essaie de trouver des informations pendant ce titre un petit peu plus, comment dirais-je, apaisant. Pourquoi pas ? Allez, on écoute Slim and the Beast sur l'antenne de Graphite. C'était Slim and the Beast sur l'antenne de Graphite. Biotine, c'est l'émission d'actualité scientifique. On parle de tous les sujets scientifiques sur l'antenne de Graphite tous les samedis entre 12h et 13h sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet tous les samedis entre 12h et 13h, le mardi matin 10h pour la rediffusion de l'émission. Et ben, on parle de tous les sujets, donc on a parlé pas mal d'actualité, d'intelligence artificielle, pardon. Et bon, du coup, j'ai essayé de chercher des petites brèves dans Sciences Avenir, dans Sciences et Vie pour un petit peu égayer cette émission et notamment cette information assez intéressante d'un point de vue médecine. Même si c'est des cœurs de porc, ils viennent d'établir un record. Ils ont été maintenus fonctionnels plus de 24 heures après avoir été prélevé. Alors traditionnellement, les cœurs humains destinés à être greffés sont préservés dans la glace pendant 4 à 6 heures avant de souffrir du manque d'oxygénation. Et depuis quelques années, il y a des systèmes de perfusion qui repoussent ce délai entre 10 et 16 heures. En fait, on utilise un liquide qui est riche en nutriments et en oxygène qui va alimenter alors le cœur. Mais bon, il y a une accumulation de déchets et c'est pas génial, on va dire. Eh bien, il y a eu des chirurgiens de l'Université du Michigan aux États-Unis qui ont réussi à pallier ce problème en filtrant le liquide et en le renouvelant régulièrement. Et l'enjeu est totalement crucial. C'est ce qu'explique Julien Guiller, chirurgien cardiaque à l'hôpital Marie-Lanlong du Plessis-Robinson, c'est proche de Paris, et qui est donc interviewé dans Science et Avenir. Quelques heures de préservation en plus, cela permet de faire venir des organes de plus loin, de greffer un patient multi-opéré en prenant le temps nécessaire, ou simplement de ne pas effectuer une greffe en plein milieu de la nuit. Donc ce cœur qui a été préservé 24 heures, c'est un nouveau système et une nouvelle information qui devrait révolutionner les greffes d'ici quelques années. Donc c'est vraiment une vraie prouesse et une bonne nouvelle, bien évidemment. Une toute petite brève, mais qui va peut-être mettre en cause pas mal d'affaires judiciaires criminelles. L'ADN d'un innocent peut se retrouver sur le lieu du crime sans qu'il n'y ait jamais été. Pour le démontrer, il y a des anthropologues de l'université du New Hampshire, aux États-Unis. Ils ont demandé à un homme de tenir un revolver, puis de le passer à une femme qui a ensuite pris un café. Donc vous voyez là, voilà ce qui s'est passé. Il tient un revolver, il passe le revolver à une femme et la femme a ensuite pris un café. Eh bien, dans 27% des cas, l'ADN de l'homme a été retrouvé sur la tasse. Sauf que l'homme n'a jamais touché cette tasse. Voilà, c'est passé par la main de la femme. Si donc l'ADN d'un innocent peut se retrouver sur le lieu du crime sans qu'il n'y ait jamais été, je pense qu'il va y avoir dans les séries policières pas mal de nouveaux scénarios qui vont être mis en place. C'est assez intéressant. En tout cas, voilà, c'est ce que propose cet article de Science et Vie. On a beau les secouer, on sait très bien que l'eau et l'huile finissent toujours par reformer deux phases totalement distinctes, sauf si on ajoute un émulsifiant comme par exemple le jaune d'œuf dans le cas de la mayonnaise. Eh bien, voilà qu'une équipe franco-américaine a réussi à obtenir un mélange stable en se passant justement de ce troisième composant. La clé de la recette, eh bien, c'est le choix de l'huile. Elle doit avoir une masse moléculaire importante et posséder une alternance de polarité, c'est-à-dire que sa chaîne d'atomes ne doit pas contenir que du carbone, mais alterner avec de l'oxygène, par exemple. Et lorsqu'une de ces huiles se retrouve confinée entre deux gouttes d'eau, elle change sa configuration en présentant la partie hydrophile vers l'eau et la partie hydrophobe du côté opposé. En fait, ça forme un film adhésif ultra fin, comme une sorte de colle. Et donc, du coup, on peut mélanger l'eau à l'huile. C'est ce que décrit Jérôme Bibette, qui est professeur à l'École supérieure de physique et de chimie à Paris, au co-auteur donc de cette étude. De quoi ouvrir, bien sûr, tout un champ d'application, comme la création de nouveaux matériaux hybrides. C'est vrai que ça peut être véritablement intéressant, bien évidemment, parce que si on arrive à mélanger de l'eau et l'huile, là on n'est pas uniquement sur un aspect purement culinaire, mais il peut y avoir des applications totalement intéressantes. Science et Avenir de septembre rappelle que le virus du sida était enfin mis en échec. Une efficacité de 100% pour éviter l'infection. C'est l'impressionnant résultat qui est obtenu par un essai clinique de phase 3 testant une nouvelle stratégie de protection contre le virus du sida. Il ne s'agit pas d'un vaccin, mais d'un antiviral, le lenacapavir, commercialisé depuis 2 ans par le laboratoire Gilead Sciences pour les patients qui souffrent déjà d'une infection résistante aux autres traitements. Ici, ce thérapeutique de dernière ligne a donc été testé comme moyen de prévention, avec un atout majeur sur les autres techniques de prophylaxie pré-exposition au virus du sida, qu'on appelle le PrEP. Seulement une injection tous les 6 mois a suffi pour protéger les femmes incluses dans l'essai contre un comprimé oral quotidien habituellement pour ce qui est utilisé actuellement. Surtout, le niveau de protection s'est révélé supérieur à ces deux médicaments qui sont le Truvada et le Descovy. L'essai a été mené en Afrique du Sud et en Ouganda sur plus de 5000 jeunes femmes âgées de 16 à 25 ans qu'on a séparées en trois groupes. Il y avait un groupe qui prenait une dose quotidienne de Truvada, un deuxième groupe qui prenait l'autre médicament, le Descovy, et le troisième groupe recevait une injection de ce nouveau médicament, le Lenacapavir, toutes les 26 semaines. Résultat, 39 infections ont été rapportées dans le groupe Descovy et 16 dans le groupe Truvada, mais aucune chez les femmes qui étaient dans le troisième groupe, c'est-à-dire celles qui étaient sous Lenacapavir. L'essai a même été arrêté prématurément pour permettre à toutes les participantes de bénéficier des injections. La présentation des résultats publiés dans la revue The New England Journal of Medicine lors de la conférence AIDS, c'était fin juillet à Munich, ça a valu une ovation à la chercheuse sud-africaine Linda Gayle Baker. Dans la revue Science, Chris Behrer, épidémiologiste à la tête de l'Institut Duke Global Health aux États-Unis, il a résumé la situation de la façon suivante. Imaginez qu'il existe un vaccin efficace à 100% chez les femmes et qu'il faille un rappel tous les 6 mois. Vous diriez, ça y est, nous avons enfin un outil permettant de mettre fin à cette épidémie. Et bien, c'est ce que fait cet antiviral. Voilà, le virus du sida, enfin mis en échec, c'est le titre de cet article dans Science et Vie. Enfin, d'autres petites brèves. Selon une étude internationale menée à ce jour uniquement chez la souris, attention, c'est uniquement chez la souris, l'application d'un sucre sous forme de gel sur le cuir chevelu suffirait à faire repousser les poils sur la tonsure. Alors, plus précisément, c'est un sucre particulier qui est le 2-désoxydéribose. C'est un constituant jouant un rôle fondamental dans divers processus biologiques chez les animaux comme chez l'homme, qui a permis de favoriser la croissance des poils des souris et la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Ça nous vient de l'université d'Islamabad au Pakistan. Alors, c'est quand même pas souvent qu'on parle du Pakistan dans cette émission, mais il y a aussi bien sûr de la recherche à Islamabad. Pourquoi il n'y en aurait pas d'ailleurs ? Sauf qu'il n'y a pas énormément de communication, on va dire, sur les recherches qui sont menées au Pakistan. Et donc là, dans Science et Avenir, on a cette petite brève qui nous explique que ce sucre pouvait lutter contre la calvitie. Alors attention, on est au niveau de la souris, parce que je vois, je comprends, je devine que certains d'entre vous se disent « ça y est, c'est bon, je vais retrouver mes cheveux bientôt ». Ce n'est pas encore le cas. Mais bon, c'est quand même assez prometteur parce que ça donne des perspectives vraiment intéressantes, bien évidemment, sur ce sujet-là. Voilà, c'était des petites brèves. On va bientôt finir cette émission, ça passe tellement vite. Mais d'ici là, on va écouter encore un autre petit titre, bien sûr, sur l'antenne de Graphite. Vous êtes tellement bien sur Graphite. Quelle chance vous avez!
I cry and sigh.
Whatever Feels Together, c'était Skull Crusher, pardon, sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Biotine, c'est l'émission d'actualité scientifique et une émission de médiation scientifique. Et l'un des événements de médiation scientifique les plus connus, les plus importants de France, c'est bien sûr la fête de la science. Il est donc évident que Biotine sera en direct de la fête de la science. Et ça sera donc dans 15 jours, le samedi 12 octobre. Nous serons en direct de la fête de la science de l'UTC, l'Université de Technologie de Compiègne. On sera au cœur de la manifestation, au cœur du village des sciences, entre 14h et 16h avec Peggy, nous serons tous les deux pour animer cette émission en direct et on va accueillir pendant 2 heures les enseignants-chercheurs, les ingénieurs de recherche, les doctorants, les industriels qui sont également présents dans cette manifestation. Ils vont nous parler de ce qu'ils proposent à l'occasion de cette fête de la science. Il y a pas mal d'activités, de stands, d'expositions, d'ateliers, de conférences, de vidéos, d'animations et ils vont nous parler de cela, de ce que l'on peut voir, de ce que l'on peut visiter, de ce que l'on peut découvrir à l'occasion de la fête de la science. Donc cette émission, c'est en direct sur l'antenne de Graphite et ça sera donc le samedi 12 octobre entre 14h et 16h. Donc ça sera un horaire inhabituel, c'est pas à midi mais à 14h qu'on se retrouvera pour 2 heures de direct bien sûr pour la fête de la science. Et le dimanche 20 octobre, encore l'actualité pour Graphite, c'est la 13e bourse au disque et au BD et au rétro gaming. C'est donc le 20 octobre à Margny les Compiègne. Alors si vous souhaitez participer à cette bourse, vous pouvez contacter soit Brian à l'adresse mail brian@graphite.net ou tout simplement de consulter la page web de Graphite, graphite.net, pour avoir toutes les informations si vous souhaitez participer à cette 13e bourse au disque, au BD et au rétro gaming. Donc c'est le dimanche 20 octobre à Margny les Compiègne. Voilà. Et puis, si vous ne voulez pas être exposant, mais que vous voulez, comment dire, visiter et acheter, ben vous pourrez vous y rendre, bien sûr. C'est gratuit, je suppose. Tiens, oui, ce n'est pas marqué, mais c'est gratuit en général, bien évidemment. La bourse au disque. Déjà la 13e, ça passe tellement qu'à une vitesse, c'est quand même affolant. Allez, avant de finir, tiens, plusieurs articles qui sont voilà, c'est le côté un petit peu détente. C'est cette incroyable découverte d'un tableau perdu de Rembrandt dans une petite ville américaine. Qui a bien pu oublier un tableau à plusieurs millions de dollars dans un grenier du nord des États-Unis? C'est précisément dans la petite ville de Camden, c'est dans le Maine, je prends toujours un accent un peu américain quand je parle des États-Unis, mais non, c'est le Maine. Eh bien, dans cette ville de Camden, le commissaire priseur, qui s'appelle Caja Veilleux, visitait le grenier d'une maison sans se douter qu'un tableau de maître allait réapparaître plusieurs années après sa disparition. Le portrait d'une jeune fille d'apparence simple attire alors l'œil du spécialiste. Il se constate rapidement que le tableau est signé de la main du peintre hollandais Rembrandt. Selon l'agence Associated Press, eh bien, le tableau aurait été perdu après un prêt au musée d'art de Philadelphie en 1970. Ce tableau, baptisé Portrait of a Girl, portrait d'une jeune fille, c'est une œuvre qui date du XVIIe siècle. Elle aurait été acquise dans les années 1920 par une famille du Maine avant d'être prêtée au musée de Philadelphie. Une fiche accolée au cadre prouve que l'ancien propriétaire habite effectivement à Camden et l'hypothèse la plus probable est donc que le tableau aurait été rendu par le musée à la famille avant qu'il ne soit placé dans un grenier et oublié durant près de 40 ans. Il y a plusieurs détails qui ont permis au commissaire priseur de miser sur l'authenticité du tableau. En premier lieu, la technique qui s'axe dans les canons de l'artiste baroque. Ce dernier a réalisé tout au long de sa vie des portraits aux caractéristiques similaires. L'un d'entre eux, Oval Portrait of a Woman, peint en 1633, est exposé au musée d'art de New York, le Metropolitan Museum of Art de New York. Les femmes représentées sur les deux tableaux arborent des atours identiques, bien que leur âge soit totalement différent. Les qualités de cette peinture ainsi que son excellent état de conservation n'ont pas échappé donc à l'œil de ce commissaire priseur. Une vente aux enchères a rapidement été organisée pour attirer les collectionneurs. Et dans une ambiance électrique, ce tableau, ce Portrait of a Girl, a finalement été vendu pour une somme totalement modique de 1 400 000 $. Ben, c'était pas mal d'avoir un tableau comme ça dans son grenier. L'acheteur est européen, il n'a pas dévoilé son identité au cours de la vente. Le tableau pourrait cependant gagner en valeur au cours des prochains mois. S'il est formellement identifié comme étant une œuvre de Rembrandt, il pourrait être estimé à 15 000 000 $. En comparaison, les gains de la vente actée par la vente aux enchères semblent être une bagatelle. Pour le commissaire priseur, la découverte du tableau est une véritable aubaine. Ces événements sont effectivement rares en Amérique du Nord, sont plus répandus dans une certaine mesure en Europe. Peintre prolifique, Rembrandt doit sa renommée à l'excellence de ses tableaux et à la finesse de ses esquisses, autant de qualités qui font de ses œuvres des artefacts prisés des collectionneurs et amateurs d'art. Bon nombre de ses tableaux ont disparu dans la nature au fil des ans. Et donc, concernant donc ce tableau Portrait of a Girl, personne ne peut déterminer s'il sera entreposé dans une pièce à l'abri des regards ou s'il circulera dans des musées, des expositions du vieux continent. Mais voilà, on a retrouvé un vieux tableau de Rembrandt dans une petite ville américaine. 1 400 000 $. Écoutez, c'est une broutille. C'est rien du tout, finalement. Mais c'est, voilà, c'est toujours intéressant, moi, je trouve, quand même, de se dire, tiens, faut toujours vérifier si on n'a pas quelque chose dans nos greniers. On ne sait pas. Cette date, voilà, c'était comme ça pendant 40 ans. Et puis, l'information, je ne sais pas. C'est assez... Ça serait intéressant d'en savoir plus sur cette famille, pourquoi ça a été mis au grenier, pourquoi personne s'en est soucié, pourquoi ça ne s'est pas su. Je ne sais pas, c'est toujours intéressant, je trouve. C'est beau, en fait. Et puis, c'est un Rembrandt, ça vaut le coup, quand même. On aurait pu le garder pour eux, hein, finalement, pourquoi pas. Allez, une toute dernière information avant de nous quitter. On a appris, au courant de cet été, la mort du physicien des particules élémentaires, Zhong Daoli. Il devient, en 1957, le deuxième plus jeune scientifique à recevoir un prix Nobel. Il avait 31 ans à l'époque. Il est donc décédé à son domicile de San Francisco à l'âge de 97 ans cet été. Sun Daoli, chinois naturalisé américain depuis 1662, avait été également professeur à l'Université Columbia de New York pendant longtemps. Auparavant, il avait passé plusieurs années avec son collègue et co-lauréat du prix Nobel de physique Chin-Ying Yang à Princeton. Il avait alors suffisamment fait impression à Robert Oppenheimer pour qu'il le considère comme un des physiciens théoriciens les plus brillants de l'époque. Et il le recrute en 1951 à Princeton. Entre 1946 et 1950, il avait en effet étudié et passé sa thèse à l'Université de Chicago, rien de moins que sous la direction d'Enrico Fermi, autre lauréat du prix Nobel de physique à l'origine de la théorie de la désintégration radioactive bêta. Fermi, c'est quand même aussi un grand nom de la physique. La théorie de Fermi reprenait, en la poussant un cran plus loin, la théorie des neutrinos d'un autre prix Nobel, cette fois Wolfgang Pauli. Donc on est entre prix Nobel. Donc au bout d'un moment, c'est certain que ça déteint sur les autres. Chacun son prix Nobel. Et donc la thèse de Zhong Daoli portait sur la physique des naines blanches. Et c'est tout naturellement qu'il s'est retrouvé aussi à interagir à ce moment-là avec un autre futur prix Nobel pionnier de l'astrophysique de ces étoiles, Chandrasekhar. Donc ils sont tous, voilà, prix Nobel, ils ont tous travaillé ensemble. Mais en tout cas, on a appris donc la mort de Zhong Daoli à l'âge de 97 ans cet été. C'était l'un des géants de la physique théorique des particules du XXe siècle. Ses travaux ont eu des conséquences sur le modèle standard de la physique des hautes énergies jusqu'à la cosmologie, en permettant d'imaginer un univers miroir d'une autre, expliquant la nature de la matière noire. En fait, il est mort sans savoir si l'univers parallèle qui était impliqué par sa théorie existe, donc il n'aura jamais la réponse, mais il était quand même un grand nom de la physique. Zhong Daoli, voilà, j'avais oublié la semaine dernière également d'évoquer le décès de ce grand physicien. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble de nos émissions. Bien évidemment, je compte sur vous. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. À samedi prochain, à bientôt. Au revoir.